avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommet, retour sur le procès Abré qui a été ajourné au Sénégal, visite du président nigérien aux États-Unis et puis nous parlerons de la visite de Barack Obama au Kenya. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus. Restez avec nous. Nous ouvrons l'émission par l'ouverture du procès Abré à Dakar qui a eu lieu en début de semaine. Une première dans l'histoire de la justice du continent. L'Afrique n'a jamais jugé d'ex-chef d'État jusqu'à présent. Retour sur cette première journée mouvementée de l'audience inaugurale de ce donc premier procès des chambres spéciales africaines à Dakar. Timothée Donangmaï a joint notre consoeur Gaëlle Yomi qui couvre le procès pour le site CNE+.
Avant l'ouverture du procès déjà, il y a eu des partisans de l'ancien président tchadien qui ont donné de la voix dans la salle pour dénoncer ce procès qu'ils qualifiaient de faux procès, d'impérialisme, de colonisation. Les forces de l'ordre ont arrêté quelques-uns, des membres du collectif de soutien à Hissène Abré. Également, l'accusé s'est présenté dans la salle, c'était avant l'ouverture de l'audience, pour interrompre l'esprit de relis qui faisait office depuis quelques temps, d'avocat de la défense. Et il disait, Hissène Abré, qu'il n'a pas d'avocat, qu'il ne reconnaît pas d'avocat et qu'il ne voudrait pas qu'on parle à son nom. Et l'avocat l'a confirmé en disant que lui, il a été avocat d'Hissène Abré, mais qu'aujourd'hui, à ce moment-ci, Hissène Abré n'a pas d'avocat. Ensuite, lorsque le procès s'est ouvert à 10h07, un moment, le procureur a demandé à l'accusé de se présenter à la barre, ce qu'il a refusé de faire. Ça a provoqué une suspension d'audience. Il devait reprendre à 15h. Et le président de la Chambre africaine a commis un huissier pour sommer le prévenu Hissène Abré de se présenter à la barre à 15h. Lorsqu'il a repris l'audience, il s'est procuré à 15h30 plus tôt. Finalement, dans les 5 minutes de retard, la réponse a été lue à la salle. Hissène Abré ne reconnaît pas la légitimité du tribunal et il refuse de se présenter à la barre. Ainsi, la décision a été prise par le président de la CAE de demander aux forces de l'ordre de faire comparaître le prévenu à 9h. La reprise d'audience.
Vous avez parlé des partisans de l'ancien président tchadien dans la salle. Qui sont-ils au juste?
Ce sont pour la plupart des Tchadiens qui résident ici au Sénégal. Et parmi eux, il y a aussi des membres de la famille de l'ancien président, dont deux de ses neveux.
Qu'en est-il des victimes présumées de son régime?
Les victimes présumées, elles étaient présentes au tribunal. Elles se sont exprimées à la presse. Et les avocats, deux avocats de la pratique qui ont pris la parole, dont les victimes sont bien là. Il y a certaines qui viennent des États-Unis, d'autres, il y a aussi des victimes sénégalaises.
Qu'est-ce qui se dit au sujet de cette première journée? Est-ce qu'elle augure une bonne suite dans ce procès?
Les observateurs craignaient que la première journée se déroule ainsi parce que M. Abré avait déjà émis l'idée qu'il ne souhaitait pas se présenter au tribunal. Donc il a été conduit au tribunal de force. Déjà, on n'est pas beaucoup optimiste quant au déroulement du procès.
La journaliste Gaëlle Yomi du site internet CNE+, et le procès d'Hissène Abré a été rendu possible grâce surtout à la ténacité et à l'organisation des victimes, mais aussi de l'avocat de l'ONG Human Rights Watch, Reid Brody. Surnommé le chasseur de dictateurs, cet Américain pugnace aidera les victimes tchadiennes à porter plainte et réussira à faire inculper Hissène Abré. Je l'ai joint à Dakar après la première journée d'audience.
C'est un moment d'émotion de se rendre compte que finalement on a abouti, que Hissène Abré est devant un tribunal, qu'il est possible, malgré les sceptiques et les cyniques, que les victimes puissent s'organiser pour traduire en justice un dictateur. C'est donc une journée d'émotion et de joie même pour nous qui avons travaillé depuis, moi en mon cas, 16 ans sur ce cas.
C'est très important que Hissène Habré puisse avoir un procès équitable. Est-ce que vous avez confiance en la justice sénégalaise et sur la façon dont elle s'est organisée pour tenir ce procès?
Jusqu'ici, on a eu une instruction exemplaire. Les quatre juges d'instruction ont fait quatre commissions rogatoires au Tchad. Ils ont interviewé plus de 2500 témoins et victimes. Ils ont ouvert les charniers. Ils ont désigné des experts, historiens et militaires pour décrypter la structure de Hissène Habré. Et surtout, ils ont eu accès aux milliers de documents de la police politique de Hissène Habré qui retracent dans le détail comment Hissène Habré a organisé, exécuté la répression du peuple tchadien. Donc, ils ont un dossier, ils ont confectionné un dossier très solide. Maintenant, le procès qui s'ouvre aujourd'hui devrait être tout aussi exemplaire.
Est-ce que vous pensez que c'est aussi un signe pour d'autres dictateurs dans le monde, qu'ils soient africains ou non?
Justement, les victimes de Hissène Habré ont été inspirées par l'exploit des victimes et des militants chiliens qui ont réussi à traduire en justice Augusto Pinochet. Et on a l'espoir que ce procès montre qu'il est possible pour les victimes, avec ténacité et persévérance, d'arriver jusqu'au bout et que cela inspire donc d'autres rescapés, d'autres organisations des droits de l'homme, de reprendre le flambeau dans leur pays et d'obtenir justice où ça ne semblait pas possible à première vue.
Au lendemain de son ouverture, le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré pour crime contre l'humanité a été ajourné au 7 septembre. Du président nigérian Muhammadu Buhari aux États-Unis depuis son élection. Le président Barack Obama l'a assuré du soutien des États-Unis dans la lutte contre Boko Haram. Les deux hommes se sont rencontrés lundi dernier à la Maison-Blanche. Plus de détails avec Gabi Dorsil.
À peine 8 semaines après son investiture, le président Buhari était au bureau ovale de la Maison-Blanche, écoutant les propos élogieux de Barack Obama sur le transfert démocratique du pouvoir, le premier au Nigeria depuis la fin du régime militaire en 1999. Pour le leader américain, c'était un vote historique. Nous avons vu une élection qui a débouché sur une transition pacifique vers un nouveau gouvernement. C'était, dit le président américain, une affirmation de l'engagement du Nigeria sur la voie démocratique. Répondant aux remarques de son hôte, Muhammadu Buhari a remercié M. Obama pour le rôle joué par Washington dans la réussite de cette transition. Le président nigérian a fait savoir que si son pays a pu passer ce cap, avoir des élections libres et démocratiques, c'est grâce à la pression maintenue par les États-Unis en particulier et aussi les puissances européennes. Pour rappel, l'ancien dictateur a accédé au pouvoir après sa victoire face au président sortant Goodluck Jonathan, maintes fois critiqué pour l'incapacité de son gouvernement à lutter contre les islamistes. Cela était devenu évident en particulier après l'enlèvement de quelques 200 lycéennes par Boko Haram à Chibok.
With the Goodluck Jonathan administration, I think that for many, many years, the Boko Haram threat was allowed to fester.
Pour Bronwyn Broughton, directeur adjoint au Centrafrique de l'Atlantic Council, la menace de Boko Haram a été tolérée et s'est accrue à cause de la brutalité des militaires nigérians. Muhammadu Buhari, un général à la retraite, a promis le changement. Quelques jours seulement après son investiture, il a limogé les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'aviation militaire du Nigeria. Ce qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de Washington.
President Buhari comes into office with a reputation for integrity.
Le président Buhari arrive au pouvoir avec une réputation d'homme intègre et un agenda très précis visant à garantir la sécurité et la paix dans son pays. Mais la coopération souhaitée par Abuja et, en fait, promise par Washington, requiert aussi d'autres efforts de la part du gouvernement nigérian.
To make sure that even as they're carrying out counter-terrorism raids and other security operations.
Comme l'a souligné le porte-parole de la Maison-Blanche, les efforts contre les terroristes doivent s'accompagner du respect des droits humains. Et c'était un élément important des échanges de ce lundi entre le président Obama et son homologue nigérian. Durant cette visite de 4 jours dans la capitale américaine, Muhammadu Buhari doit s'entretenir également avec des membres du Congrès, du cabinet ministériel et des responsables de la Banque mondiale. Aujourd'hui, mardi, il a prévu une rencontre avec la communauté nigériane de Washington.
Et la visite de 4 jours de Muhammadu Buhari ici aux États-Unis fait l'objet de nombreux commentaires dans son pays. Pour faire le point, Timothée Donangmaï a joint le professeur Ali Buhari de l'université de l'État de Nasarawa à Kefi, près d'Abuja.
Il y a ceux qui sont pour cette visite dans les perspectives que les États-Unis vont tendre la main au Nigeria pour combattre ce fléau de Boko Haram. Deuxièmement, il y a l'aspect économique. Vous savez, on a dévalisé les ressources financières nigériennes jusqu'au montant de plus de 150 milliards de dollars durant les dernières décennies par les politiciens. Et tout cet argent, c'est tout dans les banques des États-Unis de l'Amérique et de l'Union européenne. Donc, on s'attend à ce que les pays occidentaux, notamment l'Amérique, puissent tendre la main aussi pour rapatrier les 150 milliards de dollars que les politiciens nigériens ont dévalisé les ressources du pays et ont encaissé ces ressources dans les banques américaines et européennes. On s'attend beaucoup à cela parce que 150 milliards de dollars va redémarrer l'économie du Nigeria qui est maintenant moribond.
Au plan de la lutte contre Boko Haram, les États-Unis apportent déjà une assistance au Nigeria. Comment juge-t-on cette assistance?
Cette assistance doit avec l'ancien régime, l'ancienne administration plutôt de Goodluck Jonathan n'a pas bien démarré. Ils ont commencé à coopérer ensemble et puis les Américains ont commencé à soupçonner l'administration de Goodluck Jonathan. Ils ont découvert que le régime en place n'était pas vraiment sincère dans sa lutte contre le fléau de Boko Haram. Donc ils ont reculé, ils ont fait pas en arrière. Même les conseillers militaires qui ont été envoyés sur place ont plié bagage et ils ont retourné chez eux en Amérique. Donc cette fois-ci, tant que le président Obama lui-même a confiance au nouveau président élu, Mohamed Bouhari, on a confiance à lui dans le monde entier. Cette fois-ci, on espère que vraiment les relations vont bon train dans le cadre de la lutte contre Boko Haram.
Le professeur Ali Bouhari de l'Université de l'État de Nasarawa à Kefi, près d'Abuja. Quatrième périple africain du président Barack Obama, le département d'État a renouvelé sa mise en garde contre de possibles attaques terroristes au Kenya, la terre natale de son père qu'il visitera avant de se rendre en Éthiopie. Al-Shabaab, le groupe islamiste somalien affilié à Al-Qaïda, s'est déjà rendu coupable de nombreuses attaques au Kenya, dont celle d'avril contre l'université de Garissa qui a coûté la vie à 148 personnes, des étudiants pour la plupart. Plus de détails avec Idrissa Sedoudia.
Les entretiens que M. Obama aura à Nairobi et à Addis Abeba doivent être axés sur la lutte antiterroriste. Il arrivera au Kenya quelques jours seulement après la réouverture du centre commercial de Westgate à Nairobi où en 2013 les Shebab ont abattu 67 personnes. Pour l'ancien ambassadeur américain William Mark Bellamy, Al-Shabaab cherche par de telles attaques à forcer le Kenya à retirer ses troupes de Somalie, à diviser les communautés ethniques et religieuses kenyanes et à provoquer des réactions excessives de la part du gouvernement de Nairobi et de ses forces de sécurité. Les Shebab semblent réaliser au moins un de ces objectifs, dit-il, en citant la campagne de répression ciblant les communautés musulmanes et les milliers de membres de l'ethnie somalie interpellés et menacés de poursuites judiciaires et d'expulsion. L'analyste du Centre pour les études stratégiques et internationales et ex-ambassadeur à Nairobi souligne également la corruption qui mine les forces de sécurité kenyanes. De son côté, Bronwyn Bruton de l'Atlantic Council insiste sur un préalable pour le Kenya, faire face à son manque de capacité et de volonté pour mettre en œuvre les stratégies antiterroristes requises. Il sera également question de lutte antiterroriste en Éthiopie, un pays considéré comme un allié clé des États-Unis face à Al-Shabaab, malgré les critiques entendues contre le régime d'Addis Abeba dans le domaine des droits de l'homme, estime Jeffrey Smith du Centre Robert F. Kennedy de Washington.
Rubrique santé pour finir l'émission et pour une fois depuis de nombreux mois, nous n'allons pas parler d'Ebola, mais nous allons évoquer cet avertissement de la FAO. Il faut intervenir dans les plus brefs délais, faute de quoi les foyers de grippe aviaire hautement virulente, les foyers H5N1, se répandront davantage à travers l'Afrique de l'Ouest. Nous faisons le point avec Camille Grosdidier.
La FAO réclame 20 millions de dollars pour financer des opérations d'intervention et de prévention. Un appel lancé après l'apparition de foyers du virus H5N1 dans les élevages de volailles, les marchés ou encore les exploitations familiales au Nigeria, Burkina Faso, Niger, en Côte d'Ivoire et au Ghana. La grippe aviaire pourrait déclencher une hécatombe de poulets, source nutritive et peu coûteuse de nourriture pour de nombreuses personnes, constate l'agence onusienne. Elle dit redouter la dégradation de la sécurité alimentaire et l'impact de la grippe aviaire sur des économies fragilisées par l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. La première incursion du virus H5N1 en Afrique de l'Ouest s'est produite en 2006, rappelle la FAO, mais la maladie a été éliminée en 2008. Fin 2014, le virus a été réintroduit au Nigeria où il s'est répandu rapidement. Déjà plus de 1,6 million de volailles ont été abattues ou sont mortes des suites du virus.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Lionel Gaïma. À la technique, Mireille Dubinsky et Alfredo Santos. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter. Nous nous quittons en musique avec l'ancien enfant soldat sud-soudanais Emmanuel Jal qui interprète ici Adia. Bonne soirée et bonne nuit à tous. قلبنا مبدل والعين بقت بكايا تعبي سحابك نيار تشيل ليلة سرايا وشوقي الكثير برعود ودودايا تعبي سحابك نيار تشيل ليلة سرايا وشوقي الكثير برود ودودايا قريت كان ساموه يعني شرايا Listen to your heart, yo. You gotta listen to your soul. Yo, your spirit will direct to you. You gotta know that. For all the pain, yende laji. Yo, kwa den yende. Yus ka dof. Duo bungwa shu yi pa lo bi nang nyan ku jie jie. Nang en duo bungwa nyan kong yi yi ngay lo den jie. Mi ro du pal pen xie ling. Yeh du der wai ra jie nang gwa ken yin bi nang gwa den tako. Yen o yi nena dora nye dao. Tal lo na te jie kati ma larka. Laki nu ro pal pen. ضوايا تضوي فرقانا ميرا ضوايا تضوي فرقانا إلا علينا ماما جيايا قالك أهلي الما كبروا بلوايا قريت كان ساموا وانا يعني شرايا
البلاد أهلي الماء خبروا بالوايا قريت كان سامو